franceinter.fr.
Bonjour Hélène Jean.
Bonjour.
On commence par Cannes et sa Palme d'Or.
Et oui, à quoi servirait Patrick la Palme d'Or à Cannes si on ne s'étripait pas dessus? Eh bien ce matin, la presse s'en donne à cœur joie. En défense, le Figaro qui affiche la photo du réalisateur suédois sautillant à l'obtention du sacre et titre « Eureka » en couronnant The Square, cette satire brillante du politiquement correct, la 70e édition du Festival de Cannes s'offre un sacré coup de jeune. Le critique Erin Neuhoff s'enflamme. « Tout arrive », se réjouit-il. « Voici un vrai film de droite, dans le bon sens du terme, d'un profond pessimisme, d'une drôlerie ravageuse. Il faut rire de l'art contemporain, ridiculiser le snobisme intellectuel, quel salubre courant d'air !» Et Neuhoff de saluer le président du jury Almodovar qui s'en est tiré comme un chef, dit-il. L'espagnol n'appartient pas à cette catégorie de confrères jaloux de metteurs en scène qui ont plus de talent qu'eux. C'est un vrai Macron, écrit-il. Il élargit le champ. Voilà, Almodovar égale Macron égale formidable. Le tout dans le Figaro. On aura tout vu, on aura tout lu. Contrepoint à lire, vous avez de la réjouie Jean-Paul Delevoye. Contrepoint à lire cette fois dans Libération sous la plume de Julien Gester qui dénonce, lui, la farce lourdingue de Ruben Östlund. Un mot sur la prononciation, Patrick? Non,
non.
On dit bien. Non, là ça va.
Là, il n'en sait rien.
Non, non. Alors, j'ai déjà croisé Eric Neuhoff, mais Ruben Östlund, jamais.
Encore. Ok. The Square consiste en une longue série de tableaux aux comiques verglacés. C'est le rêve fait film des pourfendeurs droitiers de la bien-pensance. 2h20 pour conduire son personnage au fin fond de la benne, non sans égrener toutes les railleries usées sur l'art contemporain, avec une abominable apothéose, la fameuse scène du dîner où un artiste mime un gorille. Alors sur le site de l'Obs, Nicolas Chaleur en rajoute sur cette satire convenue de l'art contemporain, un sketch des inconnus en dit plus sur le sujet en 5 minutes et avec humour, lui, écrit-il. Voilà, adoré ou détesté, voilà quoi nous enjoint la presse ce matin et c'est formidable car elle nous donne juste envie d'aller voir ce film.
Autre polémique dans la presse ce matin, la tenue du festival Niansapo à Paris.
Ce festival prévu fin juillet à Paris se présente sur son site comme un festival afro-féministe militant organisé en 4 espaces, dont 3 non mixtes, réservés aux femmes noires ou aux femmes dites racisées. La première édition de ce festival, nous raconte le site du Monde, devait se dérouler dans un local situé dans le 11e arrondissement à Paris, appartenant donc à la ville de Paris. Même si France Durupst précise ce matin dans Libération que ces ateliers non mixtes devaient se tenir dans un lieu privé, disait le festival, et non dans l'espace public, demandé à la mairie de Paris, ce qu'Anne Hidalgo visiblement aurait ignoré. Reste qu'hier, via Twitter, la maire de Paris a annoncé qu'elle demandait l'interdiction de ce festival. Une prise de position intervenue après que le FN avait lui-même dénoncé un festival interdit aux Blancs et que la LICRA s'était alarmée de cet événement terrifiant et désespérant où des gens qui se sentent victimes de discrimination ou de racisme ne trouvent pas d'autre issue que l'entre-soi, déplorant que le combat antiraciste soit devenu l'alibi d'un repli identitaire. La polémique a enflé toute la journée hier sur les réseaux sociaux entre défenseurs et contempteurs de l'initiative. Elle rappelle évidemment celle de l'été dernier autour du camp dit décolonial organisé à Reims, réservé déjà aux non-blancs. Elle rappelle aussi les discussions réservées exclusivement aux femmes lors de Nuit Debout. Une forme de militantisme qui n'est pas nouvelle. Elle a notamment été un outil de lutte, des luttes d'émancipation dans les années 60 par le mouvement noir pour les droits civiques aux États-Unis, mais difficile à admettre, conclut néanmoins Laurent Martinet dans un article qu'il consacre au sujet sur le site de l'Express. Difficile à admettre dans une France où l'égalité des citoyens, quel que soit leur sexe ou leur couleur de peau, est un principe républicain, même si son application laisse à désirer.
Vous avez suivi cela, Jean-Paul Delevoye, un commentaire là-dessus?
Oui, vous savez, j'avais été très alerté il y a déjà quelques années lorsque des associations venaient me demander de soutenir une liste de candidats noirs pour les municipales ou de candidats musulmans. J'avais été très frappé de voir que des mesures qui pouvaient apparaître pleines de bon sens, qui faisaient partie de certains partis politiques, de dire que pour les élections professionnelles de syndicats, il fallait laisser tous les salariés pouvoir s'exprimer et choisir leurs représentants. Et nous avions immédiatement alerté en disant, mais attendez, dans le contexte actuel, vous aurez des listes de salariés noirs, musulmans, catholiques, religieux. Et la question que vous évoquez, je crois qu'au-delà de l'urgence, et vous avez raison de signaler, d'alerter, il y a un problème de fond qui est en train de se mettre en place, et je dénonçais il y a déjà quelques années que la lutte des identités allait remplacer la lutte des classes. Et qu'aujourd'hui, nous avons des quartiers dans Paris dans lesquels un certain nombre de femmes ne peuvent plus rentrer. Nous avons des endroits dans lesquels effectivement on se réunit pour être catholique, il faut être plus catholique. Pour être de droite, il faut être plus de droite. Pour être noir, il faut être plus noir. Pour être musulman, il faut être plus musulman. On a un phénomène de radicalisation des sociétés qui est en train d'émerger des murs identitaires derrière lesquels il est difficile d'imaginer que le projet républicain de rassemblement existe. Et donc, nous devons aujourd'hui, le plus tôt possible, dès l'école, dès le premier âge, commencer à faire comprendre à nos jeunes Français la richesse de la différence, l'acceptation de la différence et la nourriture de la différence. Et c'est probablement un sujet qui mettra 5 ans, 10 ans pour pouvoir renverser cette tendance qui fait que la gestion des peurs est en train d'alimenter le repli sur soi et sur l'urgence.
La rencontre Macron-Poutine également à la une de la presse ce matin.
Réception à Versailles à l'occasion d'une exposition célébrant la rencontre en 1717 entre Pierre le Grand et Louis XV. Alors si vous avez quelques lacunes sur le sujet, eh bien c'est le moment de lire la presse ce matin. Reproduit notamment dans Libération le tableau de Gorski illustrant cette rencontre entre le tsar et le roi de France alors âgé de 7 ans, qui augura donc des relations diplomatiques entre la Russie et la France. Et tout le monde de se demander ce matin si le symbole choisi par Emmanuel Macron, l'or monarchique de la France et la grandeur de la Russie, suffira pour normaliser les relations franco-russes, avec beaucoup de sujets de divergence évidemment sur la table, de l'Ukraine à la Syrie bien sûr. La presse française dithyrambique après les premiers pas du président français sur la scène internationale se demande ce matin comment il va s'en sortir avec Vladimir Poutine. Laurent Marchand dans Ouest France pose les questions. Reste le plus dur, écrit-il, pour Emmanuel Macron. Les résultats? Va-t-il réellement donner une impulsion à l'Europe, sauver l'accord climat, ramener le dialogue avec Moscou sur un rail plus pacifique? Le choix symbolique de Versailles pour renouer avec Poutine lui plaît certainement, mais sa grammaire institutionnelle doit aussi lui rappeler que sans substance, les symboles s'usent, ils redeviennent simple communication. Dans Libération, Bassa Kodmani, membre de la délégation de l'opposition syrienne pour les négociations de paix, lance un appel au président français. Ne soyez pas dupes, lui dit-elle en substance. Vladimir Poutine va tenter de faire de cette visite en grande pompe à Versailles un triomphe, justement, de communication pour ses propres médias. Mais quand vous serez en tête à tête avec lui, souvenez-vous d'Alep. N'oubliez pas qu'à coup de veto, Moscou sape au Conseil de sécurité tous les efforts diplomatiques susceptibles d'améliorer le sort des civils. Souvenez-vous de la stratégie de guerre totale menée par le régime syrien et son allié russe. Des résultats, donc.
On termine, Hélène, en bref.
Nouveau témoignage dans l'affaire immobilière qui poursuit le ministre Richard Ferrand. Dans Le Parisien, aujourd'hui en France, l'avocat à l'origine de l'opération qui aboutit au bail signé entre une SCI appartenant à la compagne de Richard Ferrand et les mutuelles de Bretagne qu'il dirigeait alors, explique que c'est bien lui, Richard Ferrand, qui a signé de sa main le compromis de vente avant que la SCI ne se substitue à lui pour la vente. Alain Castel accuse « J'ai tout de suite compris la manœuvre et cela m'avait choqué à l'époque », dit-il. Richard Ferrand allait louer l'immeuble à la mutuelle et il allait s'enrichir, même s'il convient que cela arrangeait tout le monde à l'époque, à commencer, dit-il, par mon propre client. Richard Ferrand nie dans le même journal tout conflit d'intérêts. « Je ne suis ni marié ni paxé avec ma compagne. Nous n'avons pas de patrimoine commun », se défend-il. Je vous rappelle que le parquet national financier comme le parquet de Brest ont refusé d'ouvrir une enquête.
Un mot de commentaire aussi là-dessus, Jean-Paul Delevoye. C'est un problème, c'est une question.
Nous avons analysé, la Commission nationale d'investiture a analysé plus de 19 000 candidats. Et nous avions demandé à chaque fois des déclarations selon lesquelles aucun fait délictueux, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons suspendu quelques investitures, notamment de candidats pour lesquels nous avons vu apparaître des peines d'inéligibilité qui ne nous avaient pas déclarées. Notre position est très claire. Il n'y a aucune complaisance à l'écart de quiconque, pour qui que ce soit. En même temps, nous ne cédons pas aux rumeurs. Nous analysons les faits et la condamnation des faits. S'il n'y a pas de condamnation, ça ne nous concerne pas. Et nous attendons, et donc l'on voit bien qu'aujourd'hui, sur l'affaire Ferrand, personne ne porte plainte, l'avocat lui-même est en plein paradoxe, puisqu'il dit « j'ai trouvé ça un peu curieux, mais en même temps, tant que bâtonnier, il n'a pas éclairé le procureur sur cette affaire », et en même temps, il dit que ça a arrangé tout le monde.
C'est-à-dire l'avocat donc, qui accuse dans Le Parisien, voilà. Vous dites que s'il y avait une anomalie, il aurait dû saisir la justice
évidemment. Alors, ce qui est intéressant dans les faits que nous avons vus, c'est que moi, je suis ravi de l'éveil citoyen et du regard citoyen. En tant que médiateur, je crois qu'à un moment où on veut évaluer la politique publique, le fait qu'aujourd'hui la transparence va amener à la sagesse pour tous les décideurs. Mais ce n'est pas uniquement vrai qu'en politique. Tous les abus de pouvoir dans les entreprises, dans les chefs de service et en politique vont aujourd'hui être mis sur la table. Et moi, j'espère que ça va amener une espèce de sagesse collective, car le regard citoyen. La limite de cela, c'est la délation et le soupçon. Et la vraie question qui se pose, c'est qui doit juger ? Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, les médias, vous faites votre travail en révélant les faits. Et on parle souvent du tribunal médiatique. Moi, je pense simplement que vous mettez sur la table un certain nombre de faits sur lesquels vous cherchez ensuite à ce que des décideurs décident par rapport à cela. La question de fond, c'est, je vois aussi, on parle du tribunal des électeurs. Mais les électeurs n'ont pas vocation, parce qu'ils élisent, à corriger des manquements. Il y a donc un phénomène sur lequel nous devons réfléchir.
C'est le Premier ministre qui a dit que c'est les électeurs qui tranchent.
Mais c'est pour ça que moi, je ne suis pas favorable à cette formule. Et je suis favorable, au contraire, à l'institution judiciaire et à la temporalité qu'on doit accorder aux juges.
Pardon, Jean-Paul Delevoye, c'est la justice, et rien que la justice, il n'y a pas de jugement moral à avoir sur une opération, sur une affaire.
Vous voyez un peu quelle est la limite de tout cela ? Moi, je vois bien, j'ai vu aujourd'hui, je n'ai jamais vu dans les campagnes législatives autant de violence se déverser sur les réseaux sociaux.
L'affaire Fillon n'a pas été jugée.
Non, mais elle
n'a pas été jugée, mais la justice est saisie.
Oui, il y a eu
une mise en examen.
Il y a une mise en examen et voilà, on va pas revenir là-dessus. Mais il est clair qu'aujourd'hui, la confiance que l'on doit absolument rétablir entre les dirigeants et l'opinion passe par la transparence. Et passe aussi par le fait qu'il n'y ait pas de soupçon de complaisance. Personne n'est à l'abri d'un certain nombre de principes. Les principes ne se discutent pas. Et moi, je peux vous dire qu'au niveau de la Commission, y compris à l'échelon le plus élevé, lorsqu'un certain nombre de personnes amies du président étaient concernées, le président a accepté la rigueur des principes. Et donc, il faut que l'opinion sache bien que sur ces principes-là, toute personne qui a un manquement à l'éthique publique, et Dieu sait, si on revient sur la philosophie, il a souvent cultivé l'éthique de la responsabilité et l'éthique de conviction, tout manquement à l'éthique publique sera sanctionné. Mais à condition de se baser sur des faits et des sanctions et de laisser l'institution judiciaire prendre le temps nécessaire et le recul nécessaire. Or, très souvent, on voit bien, et ça va être un vrai débat de nos sociétés, c'est qu'on attaque le juge, et on a bien vu un certain nombre d'attaques, parce que tout simplement, il n'a pas été assez sévère pour réparer ma souffrance. Nous allons avoir des chocs de temporalité entre des convictions et des émotions. Et la stabilité d'une société passe par la stabilité de ses institutions.